Bonjour Pascal Demurger. Alors la Maïs, vous détenez un record, un record absolu, 16e fois consécutive sur le podium lauréat du secteur assurance. Et vous êtes reconnu entre autres pour votre relation responsable. On a vu d'ailleurs récemment, vous avez restitué 100 millions d'euros de primes à vos sociétaires sous la forme qu'ils souhaitent. Alors justement, quelle est votre posture et comment vous gérez cette crise?
Écoutez, bonjour à tous. Alors, on l'a beaucoup dit, hein, situation inédite, nécessité de s'adapter en permanence. Ceci étant, je pense que l'adaptation n'est pertinente que si elle répond, que si elle est guidée par des lignes directrices qui sont claires. Nous sommes fixés dès le premier jour deux lignes directrices extrêmement simples. La première, je pense qu'elle est assez universellement partagée, d'autres l'ont dit avant moi, c'est évidemment priorité absolue à la santé de l'ensemble de nos collaborateurs. Ça veut dire que dès le premier jour du confinement, nous avons fermé la totalité de nos sites et recouru de manière massive au télétravail, au travail à distance. Et puis d'ailleurs, la préservation des collaborateurs, c'était aussi leur annoncer immédiatement le fait que l'on maintenait la totalité de leur salaire. En dépit de ce recours massif au télétravail, et compte tenu d'une baisse quand même importante du volume d'activité, nous sommes restés très accessibles et même avec un niveau d'accessibilité proche de 100%, plutôt un peu supérieur à la normale, donc il n'y a pas eu de dégradation de la qualité du service. Et puis l'autre ligne directrice qui était vraiment importante dans notre esprit et qui est complètement convergente avec notre culture, nos valeurs, je dirais, c'est qu'il était évidemment hors de question pour nous de tirer un quelconque bénéfice de la crise. Ça s'est traduit par beaucoup de choses, deux peut-être principalement en tout cas que je retiendrai. D'abord le choix de ne pas recourir au dispositif de chômage partiel. On a évidemment une partie significative, hein, plusieurs milliers de collaborateurs qui sont en inactivité parce que à la fois l'activité a baissé et parce que nous ne sommes pas en capacité de les occuper. Nous maintenons leur salaire, mais nous ne recourons pas au dispositif de chômage partiel, considérant dans un réflexe civique finalement que ce dispositif doit être plutôt réservé à des entreprises plus en difficulté que nous et qui, sans le recours au chômage partiel, seraient obligés de licencier des collaborateurs, ce qui n'est pas notre cas. C'est un coût qui n'est pas négligeable, hein, 15 à 20 millions d'euros pour l'entreprise. Et puis la seconde décision que l'on a prise, vous y avez fait allusion, qui dit confinement dit bien sûr baisse du trafic automobile et donc baisse de ce que l'on appelle la sinistralité automobile, du nombre d'accidents automobiles. Ça veut dire potentiellement pour un assureur comme nous, une économie sur le coût des sinistres. Il était évidemment hors de question de conserver cette économie pour nous. On a fait le choix de la mettre à disposition de nos sociétaires et ils optent entre deux possibilités, deux options. Soit ils obtiennent un reversement d'une partie de leur prime automobile de l'année, soit ils décident par notre intermédiaire, de reverser cette somme à une cause particulièrement, comment dirais-je, urgente et importante dans la crise que nous traversons. C'est d'ailleurs un choix qui a été, c'est intéressant, imité à la fois par des assureurs dans d'autres pays, hein, notamment aux États-Unis, qui sont référés de manière explicite à ce qu'a fait la Maïf, ou dans d'autres secteurs, je pense par exemple au secteur de l'alimentation avec ses kits patrons qui a organisé finalement un dispositif assez proche.
Alors effectivement, vous êtes souvent pionnier, précurseur et vous aurez sans doute aussi un rôle à jouer dans la phase post-crise. Vous êtes résolument engagé vers le pour demain. Et comment vous envisagez votre rôle post-crise justement?
Alors, bien sûr, il y a des réflexions très opérationnelles hein, sur comment va-t-on sortir de cette crise en fonction en particulier des différents scénarios de déconfinement. Je crois qu'au-delà des questions purement d'organisation et de mode de fonctionnement de l'entreprise, je pense que l'important c'est finalement quelle ligne directrice hein, va nous guider. Moi j'ai l'impression que cette crise, au fond, parce qu'elle a permis à chacun de réfléchir un peu sur le monde tel qu'il va, hein, tout simplement, et puis peut-être le monde tel que l'on voudrait qu'il aille. On a bien vu qu'il y a des choses que l'on croyait intangibles qui ont été remises en cause du jour au lendemain. Il y a un effet loupe de la crise, et puis il y a ce temps un peu de pause, hein, qui est bien sûr propice à la réflexion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que l'on pressentait déjà auparavant, s'accroît. Je veux parler des attentes des citoyens en général, des clients en particulier, à l'égard des entreprises. On n'attend plus seulement des entreprises aujourd'hui, on n'attendra plus demain seulement des entreprises, qu'elles fassent bien leur travail. On attendra aussi qu'elles aient une contribution sur finalement les grandes questions sociétales. À côté des pouvoirs publics, les entreprises doivent avoir une contribution positive au règlement de problèmes tels que les problèmes sociaux, les problèmes environnementaux bien sûr, etc. Et donc ça nous conforte très largement, hein, dans les engagements que nous prenons depuis longtemps en tant qu'entreprise à mission, hein, engagement d'attention sincère à l'égard à la fois de nos collaborateurs, de nos clients et puis à l'égard de la société en général, et dans notre volonté de développer un modèle économique au fond un petit peu alternatif, qui est un modèle économique dans lequel précisément cette attention, précisément cet engagement, non seulement est une sorte d'obligation éthique que nous nous fixons à nous-mêmes, mais peut aussi devenir une source de performance, et ça nous l'éprouvons déjà depuis très longtemps.